dans le podcast L'Amoureuse, le podcast qui éveille les consciences. Je suis Stéphanie Solina, coach de vie holistique et spirituelle, et ma mission est de vous accompagner afin de révéler votre lumière intérieure pour vous diriger vers un mieux-être. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour aborder un sujet qui concerne l'amour. Ah, ce sujet qui peut tant nous élever, mais aussi nous mettre plus bas que terre. Et peut-être que vous enchaînez les relations chaotiques avec cette conclusion que vous tombez constamment que sur des vrais connards ou que certains schémas dans vos relations amoureuses se répètent. Eh bien aujourd'hui, à travers ce podcast, je vais vous accompagner à comprendre pourquoi vous vous exposez potentiellement à la déception face à vos relations amoureuses. Alors si vous avez envie enfin d'être heureuse en amour, de connaître de belles et vraies relations, eh bien je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce podcast. Nous allons donc comprendre ensemble pourquoi nous pouvons avoir des difficultés à percevoir l'homme que nous avons en face de nous, qui se révèle plutôt être un vrai bourreau plutôt qu'un prince charmant. Et qu'est-ce qui peut aussi nous faire nous diriger vers ce genre d'homme? Ou bien pourquoi nous reproduisons le même schéma dans les relations amoureuses? Et je vais vous expliquer aussi à la fin de ce podcast comment attirer véritablement une personne qui est alignée à ce que nous avons envie de vivre. Et l'une des premières choses avant tout, c'est d'explorer notre être. C'est d'essayer de comprendre quel est notre mode de fonctionnement. Et ça, c'est essentiel si vous voulez construire une vraie et belle relation. Parce que avant de connaître le monde, il faut d'abord se connaître soi. Il y a cette fameuse citation « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde ». Donc déjà, partez à la découverte de vous-même. Donc déjà, concernant les relations amoureuses et surtout l'amour, il y a quelque chose qui me vient premièrement à l'esprit. C'est le langage de l'amour. C'est-à-dire, il y a vraiment une nécessité à comprendre comment est-ce qu'on communique l'amour, mais surtout par quel langage est-ce qu'on se sent le plus nourri d'amour. Vous allez me dire, mais le langage d'amour, c'est un peu genre universel. Certes, mais il y a aussi des vraies subtilités et en réalité, c'est pas aussi simple que ça, parce que sinon, le monde entier ne serait pas en carence d'amour. Donc déjà, l'une des premières indications d'amour que nous recevons, eh bien, ce sont ceux de nos parents. Notre façon de communiquer, de nous ouvrir au monde, eh bien, une bonne partie de cette racine est façonnée par mimétisme. C'est-à-dire que nous pouvons reproduire ce que nous avons vu dans notre enfance, comment nos parents communiquaient l'amour entre eux aussi. Donc c'est là que certains premiers schémas relationnels viennent se construire et pourront se reproduire, voire se renforcer dans des futures relations si on n'en prend pas pleinement conscience. Donc vous pouvez par exemple vous demander par quel biais je parle l'amour. Et donc pour cela, il y a les 5 langages de l'amour à découvrir. Donc si jamais vous avez un petit peu plus envie de creuser le sujet, eh bien j'ai fait un podcast dessus. Donc je vous invite à aller l'écouter, mais une fois que vous aurez terminé d'écouter ces podcasts-là, je vous vois venir, vous n'allez pas échapper à ce podcast car il est essentiel que vous compreniez certaines choses. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc une fois que vous aurez compris quel est votre langage de l'amour, vous aurez déjà défini un de vos besoins qui est assez primordial. Par exemple, admettons que vous êtes en couple et que pour vous, votre langage de l'amour, c'est la parole valorisante. C'est vraiment par ce biais-là que vous comprenez que vous sentez le plus nourri, la plus nourrie d'amour. Mais que l'autre, éventuellement, en face de vous, eh bien, exprime son amour par des cadeaux. Et bah, à long terme, ça risque de quand même poser un vrai problème. Donc, je ne dis pas de changer de partenaire. Loin de là, mais on peut faire évoluer éventuellement les choses par le biais de la communication. Alors, pourquoi est-ce que j'aborde dans ce début de podcast le sujet du langage de l'amour? Parce que parfois on peut avoir cette sensation qu'en relation de couple, l'autre ne nous aime pas, ne nous apporte pas de l'amour et directement on sort cette conclusion « non mais c'est vraiment qu'un connard ». En réalité c'est plus une question de perception et c'est assez subtil. Parce que l'autre peut nous apporter de l'amour mais si on n'est pas en capacité de comprendre son langage de l'amour, parfois on a tendance à faire vite des conclusions assez directes et à cataloguer l'autre. Donc vraiment, il y a une nécessité à comprendre quel est votre langage de l'amour, soit pour votre relation qui est maintenant, ça vous permettra de faire des ajustements, ou pour vos relations futures, comme ça vous saurez par quel biais vous vous sentez le plus nourri d'amour. L'autre point majeur des modes de fonctionnement qui peuvent vraiment venir influencer vos relations et vous faire vous diriger potentiellement vers des personnes qui ne vous conviennent pas, ce sont les blessures de l'âme. Et j'aimerais véritablement vous faire réfléchir sur le fait que vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas vos agissements. Votre être véritable, hein, votre quintessence, la quintessence de ce que vous êtes, eh bien, ne se manifeste pas dans 100% de vos actes, loin de là. En fait, en psychologie, on dit qu'il y a vraiment une face cachée de nous que nous ne connaissons pas. Un peu comme si elle nous tournait le dos pour ne jamais à ce que nous ayons à l'identifier, mais elle dirige une bonne partie de nos actes. Et cette face cachée, eh bien, elle est liée à nos blessures d'âme. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est de venir la définir. Donc, il y a 5 blessures de l'âme. L'abandon, le rejet, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Et donc, si jamais ça vous intéresse que je fasse un podcast sur les blessures de l'âme, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, soit si vous l'écoutez éventuellement sur Apple Podcast, sur SoundCloud ou à m'envoyer un message privé sur Instagram. Ça me permettra de savoir ce qui vous intéresse le plus. Donc, si vous avez du mal à comprendre, qu'est-ce qu'une blessure d'âme ? Eh bien, en fait, elle arrive à la suite d'un événement qui vous marque littéralement. À la suite de cela, votre être est marqué par une blessure. Et donc, pour survivre à ça, eh bien, votre être met en place un stratagème pour pouvoir passer au-delà de la souffrance. C'est ce qu'on appelle une réponse adaptative inconsciente. Et cette réponse, eh bien, ça devient un mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement, eh bien, va venir se manifester dans vos relations aux autres, hein, puisque la blessure de l'âme, eh bien, elle se manifeste à la suite d'une interaction avec quelqu'un. Par exemple, une personne qui a la blessure de l'abandon, eh bien, ne va pas agir pareil dans ses relations que quelqu'un qui est véritablement marqué par celle de la trahison. En fait, je vous parle aussi des blessures de l'âme parce que c'est vraiment important de comprendre que via notre mode de fonctionnement qu'on a mis en place à la suite de cette blessure, on peut avoir vraiment des schémas qui se répètent constamment dans nos relations amoureuses. Soit parce qu'on va être attiré par certaines personnes, donc certains, on va dire, types de personnes qui agissent d'une manière où vraiment ça fait résonance à notre blessure d'âme. Ou éventuellement, la personne, dans ses relations, quand elle va rencontrer quelqu'un, eh bien, va constamment reproduire le même schéma, on va dire relationnel, c'est-à-dire qu'elle va constamment réagir pareil. Soit elle va pouvoir éventuellement annihiler ce qu'elle est vraiment pour vouloir vraiment correspondre à l'autre. Et là, à ce moment-là, ça pose un vrai problème d'identité parce que au milieu de la relation, on va se dire « mais qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais ?» Et ça va vraiment poser un problème d'amour de soi, de valorisation de soi et potentiellement de stabilité dans le couple. Donc, mais ça, je l'aborderai un petit peu plus tard dans ce podcast. Il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes à comprendre. Donc ce que vous pouvez faire éventuellement déjà vous-même ou alors avec une copine, parce que c'est un peu plus simple, on va dire, de le faire quand on a un regard extérieur, c'est de faire un chemin de vie de vos relations amoureuses et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé comme schéma dans vos relations amoureuses. Par exemple, ça peut être éventuellement à chaque fois dans mes relations amoureuses, je m'oubliais pour vraiment correspondre à l'autre. Voilà, ça c'est un type de schéma qui peut revenir. Donc il y a vraiment une nécessité dans ces cas-là à axer un travail sur soi totalement différemment qu'une personne qui va avoir éventuellement la blessure et bien de la trahison. Maintenant, il y a un autre point qui peut vraiment venir influencer nos relations et potentiellement aussi nous faire tomber que sur des vrais connards. Mais ça, c'est plus une chose encore plus subtile. En fait, on est tous élevés depuis notre plus tendre enfance par des contes de fées. Et ils nous bercent vraiment dans cette espèce d'illusion des histoires d'amour avec un happy end, mais surtout des histoires avec un prince charmant qui viendra délivrer la princesse. Et même si, étant petite, vous n'avez pas forcément regardé des Disney ou autres dessins animés, eh bien, on vous a probablement lu des contes de fées avant de vous endormir, ou en fait, ce genre de scénario-là, hein, le genre de scénario où des belles histoires d'amour avec un happy end, le prince charmant qui vient délivrer la princesse, eh bien, ça baigne littéralement dans l'inconscient collectif, ce qui nous influence énormément sur notre façon de percevoir les relations amoureuses. Pourquoi ? Parce qu'il arrive très souvent qu'un bon nombre de femmes, quand elles rencontrent quelqu'un, eh bien, fassent apparaître de la naïveté. Nous sommes amadoués par le charisme de l'homme et nous nous abandonnons totalement dans ses bras sans lever ce voile d'illusion pour voir la personne et pour voir la réalité telle qu'elle est. Alors, quand je dis prince charmant, ça peut être des personnes du même sexe, hein, bien évidemment. Hein. Là, c'est stéréotypé, c'est vraiment un exemple stéréotypé. Mais voilà, ça peut être aussi, éventuellement aussi, dans des relations avec des personnes du même sexe. En fait, c'est pas tant le sexe qui importe, mais c'est vraiment le schéma relationnel. Ça, c'est vraiment le plus important, ou les perceptions qu'on a d'une relation amoureuse. Donc, ce qui nous empêche de percevoir, et je dis bien percevoir, ce qui signifie dans le langage des oiseaux, ça c'est le sens caché des mots, ça signifie percer pour voir. Donc percer cette illusion et tous les stratagèmes auxquels le prince charmant peut avoir recours pour nous hypnotiser, parce qu'il y a certains types de personnalités qui sont très fortes pour cela. Donc percer cette illusion, c'est en fait ne pas se laisser totalement embarquer par les débuts de relation où on peut avoir une vision un peu brouillée, éventuellement par le côté très brillant de l'autre. En fait, c'est apprendre à avoir du recul sur la situation pour pouvoir déceler les choses qui ne nous conviennent pas au lieu de se laisser embarquer par un grand tsunami d'amour qui peut arriver. En fait, c'est un peu, si vous voulez, le symptôme de l'objet brillant. En fait, la personne va être constamment attirée par quelque chose qui brille. Mais c'est pas parce qu'on est attiré par quelque chose que ça signifie qu'on a profondément besoin de celle-ci. En fait, nos envies, elles peuvent être aussi dirigées par notre ego et par nos blessures d'âme, ici, potentiellement, en l'occurrence, dans les relations. Donc, on a vu que ce qui pouvait perturber notre radar à détecteur de connard, entre guillemets, bien évidemment, je mets toujours mes mots entre guillemets, eh bien, ça pouvait être le fait qu'on est élevé avec les contes de fées et que déjà, ça nous place vraiment avec des attentes très particulières dans les relations amoureuses. Et l'un des points qui peut vraiment venir vous aider dans des relations, surtout, c'est l'amour de soi et l'estime de soi. Et ça, c'est vraiment essentiel. Vous méritez d'être aimé à votre juste valeur. Vous méritez d'être aimé tel que vous êtes, comme vous êtes. Vous n'avez pas à changer littéralement votre personne pour quelqu'un, à ce que l'autre vous façonne selon la manière dont il aimerait qu'il vous perçoive. Ça, c'est vraiment annihiler sa personne et ce n'est pas ce qu'il y a à faire dans des relations. L'amour inconditionnel, ça s'appelle l'amour sans condition. Donc on ne conditionne pas l'autre, on l'accepte pleinement tel qu'il est. Et vous méritez d'être aimé comme vous êtes, tel que vous êtes. Ça, c'est vraiment le premier point que je voulais vraiment aborder avec vous. Maintenant, si vous avez un petit peu du mal avec l'amour de soi, avec la valorisation de soi, il y a des choses dans un premier temps qui peuvent vous aider à, entre guillemets, à venir vous structurer quand vous sentez que vous vous laissez trop embarquer par l'affect, donc par les sentiments. Ça peut être de placer des limites, d'apprendre de vos expériences passées, parce que souvent, pour définir ses limites, c'est beaucoup plus facile de se plonger dans des expériences passées, de se dire « Ah, là, je sais que potentiellement, selon cette expérience-là, ma limite, elle pouvait être là. » Donc, de venir définir des limites dans les relations amoureuses, par exemple, pour vous, éventuellement, alors, les limites, elles vont être propres à chacun selon les perceptions et les codes que l'on a de notre propre monde. Ça, c'est vraiment important. Et elles peuvent évoluer au fur et à mesure que vous allez évoluer aussi. Mais par exemple, pour vous, ce qui est vraiment important au niveau du respect et de la considération, donc là, je prends l'exemple des messages, mais éventuellement, vous ne vivez pas avec la personne, pour vous, c'est important qu'elle vous contacte minimum tous les 3 jours pour vous demander comment est-ce que ça va. Ça, ça peut être vraiment, pour vous, c'est le béaba, la base. Voilà, la personne doit prendre en compte votre état, comment est-ce que vous allez. Pour vous, ça s'appelle du respect. Donc, vous allez pouvoir potentiellement définir votre limite en vous disant, voilà, pour moi, c'est important que la personne me contacte minimum tous les 3 jours. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir sur les limites que vous pouvez avoir dans les relations amoureuses. Ça, c'est important, ça va vraiment venir vous structurer dans un premier temps. Donc, définir vos limites, ça va vraiment vous éviter de venir, dans un premier temps, vous blesser dans les relations amoureuses, surtout si vous manquez de confiance en vous, d'estime de vous et de valeur de vous. Une autre chose qui est essentielle, c'est l'alignement. Et ça, je ne vous le répéterai jamais assez. On a tendance, à la suite d'un échec amoureux, à venir se dire « ça, je ne veux plus, ça, je ne veux plus, ça, je ne veux plus ». D'accord, très bien. Mais en fait, dans ces cas-là, vous n'envoyez pas de message à l'univers ou vous-même Vous ne savez pas comment vibrer sur ce que vous avez envie d'avoir. Donc là, c'est aussi la porte quand on dit non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. C'est aussi un peu l'occasion de récolter toutes les autres choses dont on n'a pas envie, parce que la liste est longue des choses qu'on ne veut pas, littéralement. Par contre, quand on est un peu plus centré sur soi, on sait ce qu'on veut, on sait ce qui nous correspond, on sait ce qu'on a besoin potentiellement. Mais c'est vraiment important de venir se poser cette question, comment est-ce que j'ai envie de vibrer ? Ça, c'est la question la plus essentielle au monde à se poser dans des relations amoureuses ou que ça soit éventuellement dans les choses dont vous avez envie d'avoir. Il suffit pas d'avoir le côté matériel. J'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être épanouie, j'ai envie d'être sereine dans des relations, j'ai envie qu'il y ait de la confiance. J'ai envie de toutes ces choses-là et c'est ça que je veux. C'est pas je ne veux pas qu'une personne me trompe, je ne vais pas... En fait, le « je ne veux pas », c'est vivre dans ses peurs. Vous voyez un petit peu la subtilité entre les deux ? Donc vraiment, apprenez à définir sur quelle base vous avez envie de vibrer ? Comment est-ce que vous avez envie de vous sentir dans des relations ? Ça, c'est essentiel. Et ça vous mettra en fait un calibre par rapport aux prochaines personnes que vous allez pouvoir rencontrer au niveau éventuellement de, on va dire, des valeurs qu'ils ont, que la personne peut avoir dans ses relations et vous, quelles sont vos valeurs ? Ça, c'est aussi important. Quand on a tendance à dire « je tombe que sur des connards », ben ouais, mais en fait... Est-ce que tu as déjà fait le point sur toi-même ? Est-ce que tu as déjà fait le point sur comment est-ce que tu as envie de vibrer ? Quelles sont potentiellement tes valeurs ? Ça, c'est essentiel. Et finalement, ça a aussi un rapport avec un radar de détecteur. Ah, ça me va pas. Mais votre radar, comment est-ce qu'il est calibré ? Quels sont les paramètres que vous avez rentrés dans votre radar ? Ça, c'est aussi important. Donc redéfinissez les paramètres de votre radar en définissant quelles sont vos valeurs, comment est-ce que vous avez envie de vibrer, quelles sont vos limites aussi. Ça c'est essentiel. Il y a un autre point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est sur l'amour de soi et aussi les blessures de l'âme, parce que c'est vraiment très très lié. Par exemple, pour une personne qui a la blessure du rejet, donc il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être mis en place, mais admettons ça peut être celui où la personne, comme elle n'a pas envie d'être rejetée par l'autre, va constamment venir annihiler sa personne pour subvenir à l'image dont la personne qu'on a en face de nous aimerait bien qu'elle nous perçoive. Donc c'est-à-dire qu'on va venir se modeler littéralement à tous ses besoins, à tous ses envies, quitte à oublier les nôtres, à se perdre. Et on peut avoir cette sensation de venir se dire après, par la suite, à la suite d'un échec relationnel, non mais la personne ne m'acceptait pas comme elle, comme j'étais potentiellement. Alors, encore une fois, on va parler de vision juste. Est-ce que vous estimez que c'est la juste vérité ? Ou est-ce que potentiellement dans vos comportements, vous avez annihilé votre voix, votre parole, vous ne vous êtes pas exprimé. Ça, c'est aussi important, de venir avoir une vision juste de comment est-ce que j'agis dans mes relations. Est-ce que j'essaie constamment de me conformer à l'autre ou est-ce que, eh bien, j'existe tel que je suis, je porte ma parole, je dis ce qui me va pas, je m'exprime littéralement et je suis dans ma vérité. Ça, c'est hyper important. Parce que quand on a un manque de confiance en soi ou un manque de valeur, d'estime de soi, on va potentiellement tout le temps essayer d'aller chercher vers l'autre. Et en fait, ça, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire qu'une fois que l'autre part, oh, qu'est-ce qui nous reste ? Rien, c'est la dégringolade. Et on va essayer de rechercher ça dans nos autres relations, donc tout le temps, en adaptant ce mécanisme de « je veux correspondre à 100% à l'autre, donc je vais annihiler qui je suis et je vais constamment venir me déguiser ». Mais sauf qu'en fait, on n'est jamais et on n'exprime jamais notre vérité, soit face à l'autre ou même face à nous-mêmes. Donc on ne peut jamais venir se valoriser, s'aimer ou en fait se réaliser dans notre vérité parce que les actions qu'on va faire vont être dirigées par rapport aux envies ou pour se conformer à l'autre. Voyez un petit peu la subtilité des choses. Donc potentiellement, avant de vouloir réentamer une autre relation, parce que ça aussi c'est un mécanisme, les personnes potentiellement qui enchaînent tout le temps les relations parce qu'elles n'arrivent pas à vivre seules, il y a vraiment une nécessité à faire un travail sur la confiance en soi, l'amour de soi, la valorisation de soi. Ça, c'est essentiel. Et maintenant, pour une vision un petit peu spirituelle du côté connard. Eh bien, j'ai envie de vous dire, dites un grand merci aux connards, entre guillemets, sur lesquels vous avez pu tomber. Parce qu'ils vous ont appris énormément. Ils vous ont fait grandir. Il y a des choses, quand on s'incarne en tant qu'âme, des thèmes sur lesquels on va vraiment avoir besoin de travailler pour transcender ça. La vie a une espèce d'intelligence qui va venir vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc oui, effectivement, la réalisation de soi, le fait de s'élever, Ça ne va pas forcément se faire tout le temps que par du bien, mais ça peut se faire aussi par le fait de transcender une souffrance, donc de transcender une épreuve. C'est la capacité à avoir ce côté résiliente face à une épreuve, à sortir grandie et gagnante, même s'il y a eu de la souffrance, des épreuves. Donc c'est à voir au-delà de toutes les choses qui ont pu vous arriver dans les relations amoureuses. Donc vous pouvez très bien choisir de venir parler de façon très négative de vos relations amoureuses ou de façon très positive. Effectivement, cette personne-là, il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'ai une vision juste des choses, mais à côté de ça, effectivement, bah ça m'a permis ça. Et ça, c'est aussi une manière d'arrêter de vivre dans le passé et d'arrêter de ruminer constamment les histoires passées. Parce que la rumination mentale, c'est un peu, pardon pour les mots, hein, mais l'autosuçage de sa souffrance. Donc vous pouvez très bien choisir de vibrer avec vos histoires passées en ayant une perception très négative, ou alors vous pouvez choisir de vous concentrer littéralement sur ce que vos relations passées, difficiles certes, mais sur ce qu'elles vous ont appris et comment vous avez été résiliente face à ces épreuves de vie. Ça, c'est deux choses fondamentalement différentes. Et tout à l'heure, je vous parlais de vibration, c'est la même chose. Sur quelle fréquence vibratoire j'ai envie d'être ? Est-ce que j'ai envie d'être sur une fréquence vibratoire basse et potentiellement d'attirer des personnes qui sont dans cette fréquence-là ? Ou alors est-ce que j'ai envie d'être dans une fréquence élevée et d'attirer des personnes qui vont m'élever dans ma vie ? Parce que l'amour, rappelez-vous, c'est une fréquence vibratoire qui est très haute. On a tendance à souvent rejeter la faute sur l'autre. Effectivement, si on ne prend pas la responsabilité de sa vie, c'est très facile de venir définir l'autre en tant que bourreau. Alors que finalement, si on prend conscience de nos actes, de notre vibration du moment, de notre mode de fonctionnement, on s'aperçoit que le véritable bourreau, c'est nous-mêmes. Et on s'aperçoit aussi qu'à tout moment, on a le pouvoir de venir changer les choses. On a le pouvoir de venir manifester tout ce que l'on désire dans sa vie si on change notre fréquence vibratoire. Donc si on résume un peu les grandes lignes de ce podcast, on a vu que ce qui pouvait venir interférer dans nos relations, ça pouvait être éventuellement nos blessures d'âme ou le fait qu'on ait été élevé par des contes de fées, ce qui nous pousse malheureusement à avoir une vision non réaliste des relations amoureuses. On a vu aussi que c'était important de comprendre nos besoins réels dans l'amour en comprenant quel est notre langage de l'amour. On a vu aussi que c'était important de travailler sur la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi. Et ce qui pouvait nous aider au départ pour ça, c'était de poser des limites dans nos relations amoureuses. Qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas ? L'autre chose aussi, quelle est votre fréquence vibratoire ? Comment est-ce que vous vibrez l'amour en ce moment ? Il est donc important d'être totalement aligné sur ce que l'on a envie de vivre. Et toutes ces choses-là, ça nous permettra vraiment de venir redéfinir les paramètres de notre radar pour enfin attirer des personnes qui vont pouvoir venir nous élever, avec lesquelles on va pouvoir grandir littéralement. Notre fréquence vibratoire est ce qui va venir définir ce que la vie va nous amener à nous-mêmes. Donc on attire ces choses-là, on ne tombe pas sur quelqu'un, on l'attire littéralement. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. J'espère que ce podcast sur les relations amoureuses vous aura aidé à comprendre comment vibrer l'amour dans vos relations et attirer des personnes qui vous conviennent. Je vous invite à le partager autour de vous et à l'envoyer à une personne que ça pourra aider. Pour rejoindre ce mouvement de femmes qui souhaitent révéler leur lumière intérieure, vous pouvez me retrouver sous mon Instagram sous le nom de Stéphanie Solina. Le lien est dans la barre d'infos. Et si vous avez également envie que je vous accompagne en coaching de vie holistique transformatif, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet. Et afin qu'ensemble on fasse grandir cette chaîne de podcast L'Amoureuse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et une note. Alors ça prend quelques secondes pour vous, mais c'est vraiment d'une aide précieuse. Vous pouvez également vous abonner afin d'être prévenu dès qu'il y aura un nouvel épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. En attendant, prenez soin de vous.